Le sujet que nous devions traiter aujourd'hui est les paraboles de la prière. Ce sont trois paraboles propres à Saint Luc, la parabole du juge inique, de l'ami importun et du pharisien et du publicain. Vous voyez tout de suite que ces paraboles sont bien en situation maintenant en cette époque du temps liturgique. Donc la première parabole que nous devions étudier est celle du juge inique et de la veuve importune. Je vous lis ce texte dans Saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Et il leur disait une parabole sur ceux qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il s'y refusa longtemps. Après quoi il se dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit « Écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le sens immédiat de la parabole ne fait guère de difficulté. Il s'agit donc d'une veuve qui demande justice, probablement pour une question d'héritage ou quelque chose d'analogue. Elle est pauvre, par conséquent, elle ne peut pas soudoyer le juge en lui apportant des présents. Par conséquent, elle n'a d'autres moyens devant ce juge inique, elle n'a d'autres moyens de se faire entendre que sa persévérance, que son opportunité. Et dès le début, n'est-ce pas, l'expression employée, une veuve qui venait le trouver. Et le temps de verbe employé montre qu'il s'agit là d'une venue fréquente. Donc cette veuve est là sans cesse, n'est-ce pas, devant le juge, sans cesse au premier plan, au premier rang des plaignants, pour essayer d'obtenir que le juge s'intéresse à elle et s'occupe de son affaire. Tout à la fin, il y a un verset dont la traduction peut être un peu divers, n'est pas absolument sûre. Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet. Certains auteurs traduisent « lui qui est miséricordieux envers eux ». C'est une possibilité. Cette patience de Dieu serait une attitude de miséricorde. D'autres traduisent « alors qu'il temporise à leur sujet », c'est-à-dire qu'il les fait attendre en quelque sorte. Et les deux sens sont grammaticalement et sont possibles quant au sens même du terme employé. J'inclinerai personnellement pour cette idée de temporiser, de Dieu qui fait attendre, n'est-ce pas? L'épreuve se prolonge, nous le verrons tout à l'heure, mais cependant Dieu va écouter ses élus et les exaucer. Mais il n'y a pas de certitude quant à la traduction exacte de ce verset. Mais pour bien comprendre la parabole, il est plus important de la situer ici dans son contexte. Et dans l'évangile de Saint Luc, donc le seul qui nous la rapporte, elle s'inscrit à la suite d'un texte sur la fin des temps, d'un texte qui est plus court que le grand discours apocalyptique de Saint Matthieu, mais où on retrouve les mêmes thèmes pratiquement, et donc qui lui est parallèle. Et ceci est très important. Juste avant, au chapitre 17, donc nous voyons les pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il répondit « La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer. » Mais il dit encore aux disciples, un peu plus loin, « Viendront des jours, vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » Et là, il annonce, le Christ annonce véritablement la fin des temps, et en des termes qui sont donc pour une part parallèles à ceux que nous rapporte Saint Matthieu. Et si vous voulez, reportons-nous à ce texte de saint Matthieu, le discours eschatologique de saint Matthieu, car il est assez intéressant pour nous faire bien saisir le contexte donc de cette parabole telle qu'elle a dû se situer dans l'enseignement du Christ. Dans saint Matthieu, chapitre 24, ce sont les disciples qui s'approchent de Jésus et qui lui demandent en particulier. Dis-nous, quand cela aura lieu, cela c'est la fin des temps, la fin des temps, la destruction du temple de Jérusalem, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Assurément, dans tout ce texte, il y a une sorte de blocage entre la chute de Jérusalem et la fin des temps, l'un étant le signe de l'autre. Mais il est certain que le sens ultime de ce passage vise la fin des temps, les temps eschatologiques, et la grande épreuve qui accompagnera cette fin des temps. Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup en mon nom qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. » Et un peu plus loin, « Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. » Ce thème des douleurs de l'enfantement est traditionnel dans l'Écriture pour désigner justement les temps eschatologiques, la grande épreuve de la fin des temps. « Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. » Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont, ce seront des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront, nombreux, et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Oui, tout de suite, le rapprochement que l'on peut faire entre ce verset et la finale de notre parabole dans saint Luc, je vous la rappelle, à la fin de la parabole, le Seigneur disait « Je vous dis qu'il leur fera prompte justice, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et ici, dans saint Matthieu, nous avons cette phrase « Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Et un peu plus loin, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Et c'est donc dans un contexte de ce genre que vient s'insérer la parabole, et ceci est très significatif. Parce que nous voyons que cette parabole, qui pourrait au premier abord nous sembler simplement une exhortation à la persévérance dans la prière, apparaît plus profondément une invitation à persévérer dans la foi au sein de l'épreuve. Cette persévérance dans la prière qui nous est ici enseignée est en réalité une leçon qui nous est donnée, une leçon qui est donnée aux disciples sur la manière de se comporter au milieu de cette épreuve des derniers temps. Et précisément, s'il faut persévérer dans la prière, ce n'est pas parce que Dieu est difficile à émouvoir, mais c'est parce que l'épreuve, nous y viendrons un instant, l'épreuve s'inscrit dans le temps, l'épreuve a une certaine durée, et la foi doit se manifester précisément par le fait que l'on tient bon au sein de l'épreuve, et que l'on tient bon, que l'on persévère dans la prière, parce que c'est la prière qui peut nous obtenir à la fois le courage de persévérer, de tenir bon dans l'épreuve, et aussi qui peut hâter la fin de l'épreuve. Donc c'est dans un contexte, je dirais, eschatologique, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de portée pour chaque disciple, parce que d'une certaine manière, chaque disciple vit la fin des temps, et à mesure que cette fin des temps se rapproche, nous sommes peut-être plus que jamais plongé dans cette tribulation et cette épreuve, mais c'est un contexte dont je dirais d'une certaine manière historique, au moins apocalyptique, et où les deux thèmes se rejoignent, d'une part celui de l'épreuve, de la tentation, qui est permise par Dieu pour donner l'occasion, pour donner aux attitudes profondes de notre cœur et spécialement notre foi l'occasion de se manifester, la possibilité de se manifester, comme déjà l'épreuve imposée à Abraham, comme déjà même l'épreuve imposée à Adam, n'est-ce pas? La tentation, même si Dieu permet que ce soit le démon le tentateur qui intervienne, l'épreuve a toujours pour fonction, finalement, de révéler, de permettre aux dispositions intimes de notre cœur de se révéler, et non pas seulement, de se manifester, mais là encore, de prendre corps, d'exister véritablement, de s'inscrire dans tout notre être. Et au sein de cette épreuve, eh bien, notre attitude doit être une persévérance dans la foi. Et la foi, dans le sens qu'elle a dans l'Écriture, c'est-à-dire ce mouvement de confiance et d'abandon, par lequel l'homme renonce à compter sur ses propres forces pour s'en remettre à la parole et à la puissance de Dieu. Et par conséquent, si on s'en remet entièrement à la parole et à la puissance de Dieu, et non pas, si on ne compte pas sur ses propres forces, eh bien, précisément, cette foi trouvera son expression normale dans la prière. Et lorsque l'épreuve, donc, se prolonge, et notamment cette grande épreuve, cette grande tentation eschatologique, cette grande tribulation à laquelle l'Apocalypse aussi fait allusion, n'est-ce pas, l'attitude qui est demandée aux chrétiens, c'est cette persévérance dans la prière qui incarne, en quelque sorte, la persévérance même dans la foi. Prière et foi étant les deux faces, au fond, d'une même attitude d'âme, d'une même réalité. Par conséquent, l'enseignement précis de la parabole, ce à quoi le Seigneur nous exhorte ici, c'est de persévérer dans la prière, même si Dieu tarde, précisément. Et c'est pour cela que je préférais, pour le verset dont je vous parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, ce verset 7 de la parabole, il patiente à leur sujet. Il patiente en ce sens qu'il les fait patienter, plus exactement, n'est-ce pas. Dieu prend son temps, en quelque sorte. Dieu tarde d'intervenir apparemment. Et il faut, au sein, l'une des principales manifestations de notre foi sera précisément de tenir bon, de persévérer dans la prière inlassable, la prière incessante, au sein même de l'épreuve, au sein même de cet abandon apparent de Dieu, qui semble ne pas intervenir, qui semble nous laisser seuls dans l'épreuve. Et en même temps, cette parabole nous enseigne la certitude de l'exaucement. Notre prière est certaine d'être exaucée, la seule condition c'est la foi. Mais ceci va être développé alors par la parabole suivante de l'ami importun et par le contexte de cette autre parabole. Mais encore une fois, cet exaucement, n'est-ce pas, je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Faire prompte justice ici signifie leur faire grâce. Signifiera leur venir en aide. C'est dans saint Paul aussi, n'est-ce pas, l'expression « justice » n'a pas du tout le sens que nous donnons couramment à ce mot, d'une justice distributive, d'une justice qui partage les récompenses ou les châtiments, n'est-ce pas, ou qui discerne entre le coupable et l'innocent. Mais quand Dieu fait justice, c'est dire que Dieu fait miséricorde. Les deux expressions sont pratiquement équivalentes, n'est-ce pas. Et donc, on pourrait traduire aussi bien, n'est-ce pas, « je vous dis qu'il va falloir prendre justice », je dirais, on pourrait dire aussi bien, je vous dis qu'il interviendra promptement et peut-être même soudainement en leur faveur, qu'il leur fera soudainement miséricorde. Promptement n'est peut-être pas exactement la traduction juste. Et on a un peu l'impression ici, n'est-ce pas, que le Seigneur veut laisser entendre que l'épreuve va se prolonger, c'est normal que l'épreuve s'inscrive dans le temps, est une durée, mais en même temps, notre prière nous obtient à la fois la force de tenir dans l'épreuve, et puis en même temps peut hâter la fin de cette épreuve. Et donc soudainement, c'est-à-dire au moment où on ne s'y attend pas, en quelque sorte, Dieu va intervenir. Dieu va exaucer notre prière. Et si on prend la parabole dans ce sens eschatologique, cet exaucement, ce sera justement l'accomplissement définitif, n'est-ce pas ? Notre prière peut, d'une certaine manière, hâter l'avènement des filles du royaume de Dieu, hâter le retour du Christ, hâter l'instauration de la Jérusalem céleste. Mais dans notre vie de tous les jours, n'est-ce pas, eh bien aussi notre prière au sein de l'épreuve hâte dans notre vie cette manifestation de Dieu, cette intervention de Dieu qui est toujours comme une sorte d'anticipation, une sorte de promesse, de gage de son intervention finale, définitive, à la fin des temps. Donc vous voyez quel est le je dirais, le sens général, semble-t-il, de la parabole. Et l'importance de la situer pour bien la comprendre dans ce contexte eschatologique qu'elle garde dans l'évangile de Saint-Luc. La seconde parabole dont je voulais vous parler est celle de l'ami importun, qui se trouve dans Saint-Luc, un peu avant celle-ci, au chapitre 11, versets 5 à 8. Il leur dit encore, « Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir, et que de l'intérieur l'autre réponde, « Ne me cause pas de tracas, maintenant la porte est fermée et mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour t'en donner, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Cette parabole, si nous en tenons au texte simplement, tel que je viens de vous le lire, paraît presque comme un doublé de la précédente. Simplement, l'image change, mais on se trouve devant un cas tout à fait analogue, non plus d'une veuve, mais d'un homme qui est dans le besoin, qui a un besoin pressant d'une forme d'aide, et qui obtient cette aide à cause de son impudence, à cause de son insistance inlassable à la demander. Devant le refus apparent de son ami, il continue à prier, il continue à demander, et à cause de cela, obtient finalement gain de cause. Mais il y a une différence importante dans le contexte, car ici le contexte n'est plus un contexte eschatologique, un contexte, je dirais, de type historique et doctrinal, mais un contexte simplement parénétique. Cette parabole dans Saint-Luc vient aussitôt après l'enseignement du Seigneur sur le Notre Père. Les apôtres demandent au Seigneur « Apprends-nous à prier » comme Jean l'a appris à ses disciples, et Jésus leur livre la formule du Notre Père. Et puis aussitôt vient la parabole de l'ami importun. La seule chose qui pourrait évoquer ce contexte de tentation eschatologique dont je parlais tout à l'heure est évidemment la dernière demande du Pater par lequel du Notre Père dans cette version de Saint-Luc, n'est-ce pas, ne nous soumet pas à la tentation. La tentation pouvant renvoyer aussi à cette grande tentation eschatologique, n'est-ce pas? C'est un des sens de cette demande du Notre Père d'après les commentaires patristiques. Mais toute tentation, toute épreuve étant déjà une sorte d'anticipation, n'est-ce pas, de la grande tribulation eschatologique. Tout cela se tient. L'expérience de chaque chrétien, l'expérience de chaque chrétien est une manière, s'inscrit dans le dessein total de Dieu, et déjà nous vivons d'une certaine manière tous les événements de l'histoire du salut, y compris cette grande tribulation eschatologique, et déjà aussi toute visite de Dieu dans notre vie spirituelle, toute intervention de Dieu dans notre vie spirituelle, et comme je vous le disais tout à l'heure, un gage, une promesse, une sorte d'anticipation de la délivrance définitive au jour de la parousie. Et puis, aussitôt après cette parabole donc de l'ami importun, l'évangile de Saint-Luc continue à nous livrer un enseignement général sur la prière. La parabole se terminait par ce verset. Donc, s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. Le texte poursuit. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et qui à la place du poisson lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Donc nous avons là un enseignement très caractéristique sur l'efficacité de la prière, un enseignement parallèle à bien d'autres passages, bien d'autres paroles du Seigneur dans l'Évangile sur l'efficacité de la prière, et c'est en fonction de ce contexte là que nous pouvons interpréter la parabole. Ces autres textes, vous les connaissez, n'est-ce pas? C'est par exemple dans l'Évangile de Saint Jean, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. ou encore dans l'évangile de Saint Luc 11:9 ou Saint Matthieu 7:7, et moi je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Donc, cette parabole reprend, si vous voulez, l'enseignement de la précédente, mais en le généralisant. Autant la précédente se situait dans un contexte non pas historiquement datable, puisqu'il s'agit de la fin des temps que nul ne peut prévoir, mais dans un contexte d'histoire du salut, celle-ci se place dans un contexte beaucoup plus personnel. C'est simplement un enseignement général, commun, sur la prière. Encore une fois, les deux choses ne sont pas à séparer, puisque l'expérience personnelle du chrétien est toujours interprétée en fonction de l'histoire du salut qu'il revit pour son compte, mais précisément, nous sommes ici en présence de cette transposition, si vous voulez, cette adaptation en fonction, alors, simplement de la vie spirituelle personnelle du disciple du Christ. Et les deux choses sur lesquelles la parabole insiste donc le plus, ce sera la persévérance dans la prière, qui sera toujours une des grandes lois de l'exaucement dans la prière, non pas parce que la quantité vaudrait par elle-même, mais parce que, justement, la foi se prouve par le fait de tenir bon à travers le temps. Le temps est toujours une épreuve, l'attente de l'exaucement, le fait que Dieu n'exauce pas immédiatement, met notre foi à l'épreuve, et ce qui donne sa qualité, son intensité, sa réalité profonde à notre foi, c'est justement cette patience, ce fait de persévérer, de continuer, de tenir bon. Et la prière chrétienne devra être ainsi une prière incessante, c'est-à-dire une prière que rien ne décourage, une prière qui ne se lasse pas, une prière qui continue à travers toutes les difficultés, toutes les épreuves, tous les silences apparents de Dieu. Et précisément, c'est notre prière devra, je dirais, sa force d'exaucement à cela, à cette foi qui va l'inspirer, justement, car dans tous les textes de l'Évangile qui font allusion à la prière, nous voyons très très bien que la condition fondamentale de l'exaucement de la prière, c'est la foi, que notre prière soit animée par la foi, et si cette foi existe en nous, eh bien, à ce moment-là, alors, notre prière, de cette manière, peut tout. Vous avez là, par exemple, la réponse du Christ dans Saint Matthieu 17:20, c'est sa réponse aux apôtres. Je vous relis le texte que vous connaissez bien. Là, il s'agissait d'une expulsion de démons, n'est-ce pas ? Et les disciples demandent au Christ, « Pourquoi nous autres n'avons-nous pas pu l'expulser ?»« Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là, elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. » Mais bien d'autres textes montrent cette puissance de la foi, n'est-ce pas ? Puissant de la prière, mais de la prière inspirée par la foi, comme expression de la foi, parce que, tout simplement, parce que comme je le disais ce matin dans l'homélie, n'est-ce pas, c'est par la foi que l'homme s'ouvre à Dieu, s'ouvre à l'action de Dieu dans sa vie, et à partir de là, quand le cœur de l'homme est véritablement ouvert à cette action de Dieu, eh bien tout ce qui est impossible à l'homme et possible à Dieu, lui devient possible, peut se réaliser dans sa vie. Et venons-en à la troisième parabole, nous avons déjà un peu parlé ce matin, mais sur laquelle il faut revenir, celle du pharisien et du publicain. Et nous retrouvons, il n'y a pas l'insistance qu'il y avait dans les précédentes sur la quantité dans la parole, dans la prière, la persévérance dans la prière, mais l'insistance sur le lien entre la foi et l'humilité s'y trouve alors tout à fait développée. Donc parabole du pharisien et du publicain. Elle vient à la suite, elle est dans un contexte très voisin de celle du juge inique. Aussitôt après la parabole du juge inique, n'est-ce pas, nous lisons, « Il dit encore, à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes, comme je vous l'ai dit ce matin, la traduction n'est pas très bonne, il vaut mieux comprendre, à certains qui se confiaient dans leur propre justice, et n'avait que mépris pour les autres, la parabole que voici. Et tout de suite vient la parabole du pharisien publicain. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant. Notez bien que le pharisien, le publicain ici, ne prend même pas l'attitude de la prière. Dans la Bible, de tenir les yeux baissés ainsi en se frappant la poitrine, ce n'est pas une attitude de prière dans la tradition hébraïque. C'est beaucoup plus une attitude de deuil. C'est l'attitude que une mère qui a perdu son enfant ou quelqu'un qui éprouve un deuil, n'est-ce pas, adoptera spontanément. C'est donc beaucoup plus une attitude de deuil que de prière. Il faut se rappeler que toute la tradition chrétienne emploiera ce mot de penthos, n'est-ce pas, de catanixis, qui exprime bien le deuil, n'est-ce pas, surtout penthos, pour exprimer cette attitude de componction qui doit animer la prière chrétienne. Donc, il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier est descendu chez lui justifié, l'autre non. Justifié, là encore, la racine de justice n'évoque pas une justification au sens français du mot, mais là encore, c'est Dieu qui lui fait miséricorde. Dieu qui lui pardonne. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc nous retrouvons ici le lien que nous avons constaté tout à l'heure entre la foi et la prière. Mais ici l'accent est mis, et c'est nouveau, sur l'élément de repentir. De repentir, c'est-à-dire de reconnaissance de sa condition de pécheur qui a pour corollaire justement la totale confiance dans la miséricorde de Dieu. Pour pouvoir se comporter à l'égard de Dieu avec foi, eh bien il faut se reconnaître pécheur. Il faut avoir cette conscience profonde de son péché. Et les deux personnages mis en scène dans cette parabole nous font tout à fait penser à l'enseignement que le Christ donnait à propos de son repas avec les pécheurs, de son repas chez Zachée, n'est-ce pas ? « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » Ce qui veut dire « Je ne suis pas venu pour ceux qui s'estiment justes et qui pensent que la justice s'acquiert par les œuvres, est au pouvoir de l'homme, mais par ceux, justement, qui se reconnaissent pécheurs, qui éprouvent en eux à la fois leur séparation d'avec Dieu, leur éloignement de Dieu, tout ce qui en eux fait écran à l'action de Dieu dans leur âme, mais qui en même temps, n'est-ce pas, le reconnaissent, le désavouent et s'en remettent totalement à la miséricorde de Dieu. Donc, se reconnaître pécheur, c'est la condition primordiale pour que la foi puisse germer en nous. Et au contraire, s'estimer juste, c'est se fermer à la foi et compter sur ses œuvres. C'est toute la théologie de saint Paul, n'est-ce pas, justification par les œuvres, justification par la foi. L'attitude judaïque au sens étroit du mot, n'est-ce pas, au sens condamné par le Nouveau Testament, et puis au contraire, l'attitude proprement chrétienne, la véritable attitude du disciple du Christ, qui est la foi, qui est de compter entièrement sur la miséricorde de Dieu, et donc radicalement de reconnaître son impuissance et sa condition de pécheur. Donc nos trois paraboles, n'est-ce pas, insistent, nous livrent un enseignement tout à fait fondamental sur la prière, et notamment, je dirais, deux choses tout à fait essentielles. D'une part, que notre prière doit être une prière animée par cette conviction d'être pécheur, n'est-ce pas, cette prière inspirée par le repentir, par la repentance. Ceci est un premier point tout à fait radical. Et je crois que ce qui doit distinguer la prière proprement chrétienne, c'est justement le fait d'être animé par cela, par ce sens très très profond du repentir. Et si vous voyez, toutes les prières que le prêtre récite au cours de la liturgie, et de façon plus générale, toutes les formules de prière que l'on peut trouver dans les offices de l'Église, toutes ces prières peuvent être dites, je dirais, par n'importe qui, si pécheur qu'il soit. Il y a quelquefois des prières composées par des hommes de Dieu, d'une certaine manière, n'est-ce pas, qui sont des prières qui supposent une certaine élévation spirituelle pour pouvoir les dire. Vous avez notamment, chez les spirituels occidentaux depuis deux ou trois siècles, des prières qui supposent presque que l'on est juste. Bon, on veut réparer pour les pécheurs, etc., et on fait toutes sortes de belles protestations, de beaux sentiments que l'on éprouve. Si vous n'éprouvez pas tous ces beaux sentiments, vous ne pouvez pas dire ces prières. Si vous prenez au contraire les prières les plus traditionnelles de l'Église, toutes les prières que vous trouvez dans les textes, les livres liturgiques, toutes ces prières-là sont au fond toujours des prières de pécheurs, des prières où cette reconnaissance profonde du péché est première. Et je me souviens d'une formule que j'ai trouvée très heureuse du père Siméon, le disciple de Père Sophronie, au cours d'une conférence qu'il donnait il y a quelques années, une conférence sur les icasmes. Il disait ceci, j'avais noté à l'époque cette formule: le moteur de toute la prière hésicaste est le repentir, se condamner soi-même pour voir Dieu dans le Saint-Esprit. Et ce raccourci, tous les icasmes consistent à se condamner soi-même pour voir Dieu dans le Saint-Esprit. Je trouve ça admirable comme raccourci, toute la philokalie tient dans ces quelques mots. Il ajoutait, l'hésicasme est quelque chose d'incroyablement simple qui mène au plus haut degré de l'union à Dieu. Mais le moteur de toute la prière hésicaste est le repentir. Cet aveu, cette reconnaissance de son péché, et puis en même temps, le fait de miser totalement sur la miséricorde de Dieu. Et le père Siméon ne faisait en cela que commenter ce mot du Staret Siloane, sur lequel le père Sophronie a tellement insisté, n'est-ce pas ? Tiens ton âme en enfer et ne désespère pas. Les deux choses fondamentales, reconnaître son péché, le reconnaître, le désavouer, et puis en même temps miser totalement sur la miséricorde de Dieu, ce qui fait qu'on ne désespère pas. Et c'est un enseignement tout à fait classique dans toute la tradition spirituelle orthodoxe. Si vous prenez un livre comme L'art de la prière, cette compilation d'un higoumène de Valahamo, n'est-ce pas, vous retrouverez cela à chaque page. Par exemple, cette formule entre mille de Théophane le Reclus: il faut savoir que celui qui avance vers la perfection n'a pas lui-même conscience du progrès qu'il fait dans cette voie. Il travaille à la sueur de son front, mais pour autant qu'il peut en juger, ses efforts sont infructueux. La grâce agit en secret. La voie vers la perfection consiste à réaliser qu'on est aveugle, pauvre et nu. La voie vers la perfection consiste à réaliser qu'on est aveugle, pauvre et nu. C'est le péché qui attire l'Esprit Saint vers les hommes. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Cette sorte de péché, le péché reconnu et déploré. C'est le péché qui attire l'Esprit Saint vers les hommes, le péché reconnu et déploré. Cette sorte de péché l'attire. Plus l'homme voit son péché, et plus il se lamente sur lui-même, plus il est accessible à celui qui ne vient que pour ceux qui se reconnaissent malades. Ceci est profondément évangélique, et je crois que c'est en cela que la voie spirituelle du chrétien diffère profondément, par exemple, de certaines spiritualités non chrétiennes qui ont une toute autre orientation. Et parce que, ici, justement, tout est grâce. Le but n'est pas du tout pour l'homme, dans une vie de prière, d'arriver à un certain équilibre intérieur simplement humain, n'est-ce pas, je dirais, être bien dans sa peau, si, pardonnez-moi l'expression, mais tout simplement à s'ouvrir aux énergies déifiantes de Dieu, ce qui est tout à fait autre chose. Et vis-à-vis de cela, eh bien, il n'y a en l'homme aucune possibilité, aucun pouvoir. Je me souviens d'avoir eu l'occasion de parler avec un lama tibétain, qui est d'ailleurs un homme admirable, et lui insistait énormément sur le fait que, dans la vie spirituelle, tout est au pouvoir de l'homme, et l'homme ne doit compter que sur lui-même. C'est très vrai si, justement, on conçoit la vie spirituelle comme une éthique, n'est-ce pas, telle que la conçoit. Mais justement, c'est là que l'on sent la différence fondamentale avec l'objectif propre du chrétien. Il n'y a pas... Ça n'est pas sur le même terrain, n'est-ce pas, c'est véritablement autre chose. Donc, il s'agit là de s'ouvrir à cette irruption en nous des énergies divines, n'est-ce pas, et la seule attitude à avoir devant cela, eh bien, c'est cette reconnaissance de son péché. Et tous les icasmes, encore une fois, comme le disait très très bien Père Siméon, tient en cela. Et c'est pourquoi je regrette beaucoup qu'un texte de Saint Jean Chrysostome, que je vous ai lu il y a peut-être 2 ans déjà, mais sur lequel j'aime revenir, ne se trouve pas dans la Philokalie. Et c'est peut-être l'un des textes qui résume le mieux tout l'esprit de la tradition hésicaste. Je vous relis donc ce texte qui est un petit peu long, mais qui mérite d'être pesée et d'être un petit peu commentée. Saint Jean Chrysostome insiste d'abord, c'est un texte qui se trouve vers la fin de ses traités sur l'incompréhensibilité de Dieu, ses homélies sur l'incompréhensibilité de Dieu. Ce sont des homélies dirigées contre Eunome, ce chef d'une faction arienne qui prétendait que l'on peut arriver à une connaissance en quelque sorte exhaustive de l'essence de Dieu dès lors que l'on a dit et compris que Dieu est inengendré, n'est-ce pas ? Et devant cette hérésie, Saint Jean Chrysostome a écrit de très belles homélies pour montrer combien Dieu est au-delà de toute saisie, de toute compréhension humaine. Mais, comme c'est souvent le cas chez Saint Jean Chrysostome, comme chez tous les grands prédicateurs, d'un point de vue dogmatique, il passe ensuite à un point de vue beaucoup plus pratique, et ses homélies l'amènent, vers la fin, à développer des considérations qui n'ont qu'un rapport relativement lâche avec ce qui précède, et qui sont simplement un enseignement sur la prière en général. Mais cet enseignement, sous un aspect très simple, très élémentaire, et d'une grande profondeur. Et Saint Jean Chrysostome, venant à parler de la prière, dit « C'est une arme puissante que la prière. Un trésor indéfectible, une richesse intarissable, un port à l'abri des tempêtes, et il a toutes sortes d'images ainsi qu'il développe pour montrer la puissance de la prière. » Il revient sur ce sujet un tout petit peu plus loin. La puissance de la prière a vaincu la puissance du feu, elle a brisé la fureur des lions, terminé des guerres, arrêté des combats, apaisé des tempêtes, chassé les démons, ouvert les portes du ciel, brisé les liens de la mort, chassé des maladies, repoussé des intrigues, raffermi des villes ébranlées, éloigné les fléaux envoyés d'en haut, comme les embûches dressées par les hommes, en un mot, tous les périls. Et il montre que la prière est au fond l'arme la plus puissante que l'homme possède. Mais il ajoute tout de suite... Par prière, j'entends non pas celle qui n'est que dans la bouche, la prière purement vocale, purement orale, qui ne serait faite que de mots, qui serait purement verbale, mais celle qui jaillit des profondeurs de l'esprit. Et il a ensuite cette très belle image. En effet, de même que les arbres dont les racines s'enfoncent profondément, même si les vents se déchaînent mille assauts contre eux, ne sont pas brisés ni arrachés, parce que leurs racines sont fortement enserrées dans les profondeurs de la terre, de même, les prières qui s'échappent des profondeurs de l'esprit, ainsi enracinées, montent vers le ciel en toute sûreté et ne sont détournées par l'assaut d'aucune pensée. C'est pourquoi l'écrivain sacré dit « Des profondeurs, j'ai crié vers toi, Seigneur ». Mais qu'est-ce que Saint Jean Chrysostome entend par ces profondeurs de l'esprit ? Eh bien, il le développe dans plusieurs passages de ce texte, et il dit ceci. Pour que tu saches bien que les prières ont le plus de chance d'être exaucées quand elles sont proférées dans l'angoisse, c'est-à-dire dans cette attitude que ce psaume, genre des profondeurs, j'ai crié vers toi Seigneur, n'est-ce pas, évoque cette angoisse, ce resserrement intérieur. Angoisse n'a pas ici un sens simplement psychologique, mais le sens d'une sorte de resserrement de l'âme. Et vous allez voir en quel sens. Écoute ce que dit l'écrivain sacré. J'ai crié vers le Seigneur quand j'étais dans la tribulation et il m'a exaucé. Et ce texte du psaume 119 est tout à fait dans la suite de l'autre expression des profondeurs, j'ai crié vers toi. Et il poursuit. Réchauffons donc notre conscience. Infligeons la tribulation à notre âme par le souvenir de nos péchés. Infligeons-lui la tribulation, non pas pour la tourmenter, mais pour la mettre en disposition d'être exaucée. Donc, pour Saint Jean Chrysostome, cette conscience, mais extrêmement vive, aiguë, du péché, va réchauffer notre âme, va en chasser la froideur, va en chasser l'indifférence, va en chasser l'insensibilité. Et ceci pour la mettre en disposition d'être exaucée, pour la rendre sobre et vigilante. Donc, en état d'éveil. Ce sont des mots, la sobriété, la vigilance, sont les mots tout à fait techniques du vocabulaire hésychaste, pour désigner cet éveil de l'âme, n'est-ce pas, de l'âme qui n'est pas dans l'insensibilité, qui n'est pas dans dont la prière n'est pas purement verbale, n'est pas une question de mots, mais justement jaillit du profond de son être. Et ainsi lui permettre d'atteindre jusqu'aux cieux. Rien n'est aussi propre à chasser la paresse et la négligence que la douleur et la tribulation qui rassemblent l'esprit de toutes parts et le font rentrer en lui-même. Celui qui prie ainsi dans la tribulation pourra, après la prière, goûter dans son âme une grande joie. Les larmes qui procurent la joie, comme dira Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Climac. Mais les expressions de Saint Jean Chrysostome, ils sont encore très intéressantes, voyez-vous. Rien n'est propre à chasser la paresse et la négligence, cette espèce de torpeur de l'âme, que la douleur et la tribulation. Et cette douleur du péché ressenti, éprouvé. Cette douleur de se sentir loin de Dieu, de sentir que tout ce qui est en nous est opaque, tout ce qui est en nous fait que nous ne sommes pas ouverts à ce don de Dieu, que nous sentons à la porte du paradis. C'est vraiment le deuil du paradis perdu. Nous lamentons comme Adam, nous aurons bientôt, n'est-ce pas, au seuil du grand carême, cette grande lamentation d'Adam dans l'office des Vêpres, qui est admirable et qui est vraiment l'expression même de la componction de l'homme, ce brisement du cœur de l'homme qui sent que par sa faute, les portes du paradis sont fermées devant lui. Donc, rien n'est aussi propre à chasser la paresse, la négligence, la douleur et la tribulation qui rassemblent l'esprit de toutes parts et le font rentrer en lui-même. Et là encore, ce sont des expressions tout à fait hésicastes, enfin, ce rassemblement de l'esprit en lui-même, ce retour de l'esprit, de l'intellect en lui-même, ce retour au cœur finalement. Et il y a, si je puis dire, comme deux étapes, deux stades, deux niveaux dans ce retour au cœur, ce retour de l'intellect, de l'esprit dans le cœur, dont parle sans cesse la tradition hésicaste. Il y a un degré, bien sûr, où c'est l'œuvre propre de Dieu. Quand Dieu touche notre cœur par une grâce tout à fait gratuite, n'est-ce pas ? Quand la prière jaillit spontanément de notre cœur, eh bien, à ce moment-là, la douceur de Dieu qui peut être éprouvée au fond du cœur rassemble l'esprit, fait que toutes les distractions tombent d'elles-mêmes et que sous cette touche de Dieu qui atteint notre cœur, le plus profond de notre cœur, l'esprit se rassemble en lui-même, laissant de côté tout le reste, toute attention à ce qui est d'autre chose. Mais, à un premier stade, il y a un premier retour du cœur en lui-même qui est l'œuvre propre précisément de se repentir de cette compunction du cœur. Parce que dans la mesure où nous éprouvons en nous une détresse profonde, dans la mesure où, simplement par la prise de conscience, comme l'enfant prodigue, n'est-ce pas, revenu à lui-même, n'est-ce pas, l'enfant prodigue qui réalisait son éloignement de la maison du Père, cette famine dans laquelle il se trouvait, eh bien à ce moment-là, déjà à ce niveau, et là, ça dépend, je dirais, non pas de nos propres forces, mais de notre effort normal assisté par la grâce ordinaire de Dieu, sans qu'il y ait à cela besoin d'aucune touche mystique ni de quoi que ce soit de cet ordre, n'est-ce pas ? Eh bien, déjà, cette contrition, cette compunction du cœur rassemble notre cœur en lui-même et fait tomber toutes les distractions. Ce n'est pas là une expérience directe de la lumière et de la douceur de Dieu qui va rassembler notre cœur en lui-même, mais c'est l'expérience de notre propre péché. Et c'est ça qui est fondamental, qui est premier. Le reste, dans la mesure où ça n'est pas donné par Dieu, où ça serait simplement l'effet d'une sorte de, je dirais, de rêverie presque sentimentale sur Dieu, sur les mystères de Dieu, c'est très équivoque. Ça peut être une pure sensibilité, une pure sentimentalité pieuse, qui en fait soit illusoire. Tandis qu'au contraire, cette expérience de notre péché, là, c'est quelque chose de solide. Vous savez qu'il y a un apophtègme, un jeune moine disait à un ancien, mais les choses vont très très bien, n'est-ce pas pour moi, oui, ça va vraiment très bien dans ma vie spirituelle, mon esprit ne s'éloigne presque plus de la pensée de Dieu. Et l'ancien lui dit, d'avoir toujours son esprit avec Dieu, cela n'est rien. Ce qui importe, c'est d'avoir toujours présent à l'esprit la pensée de ses péchés. Bon, ce qui ne veut pas dire que pour un moine avancé, un spirituel avancé, d'avoir cette pensée constante de Dieu n'est rien. Mais dans le cas de ce jeune moine, dans le cas d'un débutant, et au fond nous sommes tous des débutants, n'est-ce pas ? Eh bien, ce qui est le plus important et ce sur quoi nous devons faire porter notre effort, c'est cela, d'avoir cette pensée de nos péchés et de ramasser notre esprit par là, par ce sentiment de notre détresse et de cette douleur profonde de notre éloignement de Dieu, cette douleur profonde du paradis perdu. Et le reste, eh bien, ça risque très très fort d'être en grande partie illusoire tant que ce n'est pas véritablement un don de Dieu. Et Saint Jean Chrysostome continue, reprenant d'autres images. De même que les nuées qui, en s'amoncelant, commencent à obscurcir l'air, puis une fois qu'elles ont émis d'abondantes nappes d'eau et ont déversé tout... Attendez, excusez-moi, ce n'est pas ce passage que je voulais lire. Mais c'est une autre image de la prière qui monte jusqu'au ciel, n'est-ce pas ? Donc, la prière dont je parle, la prière qui peut être exaucée, ce n'est pas une prière médiocre et pleine de négligence. C'est une prière faite avec intensité, dans la souffrance de l'âme et la tension de l'esprit. et souffrance de l'âme au sens de conscience de son péché. Voilà la prière qui monte jusqu'au ciel. De même que l'eau, lorsqu'elle coule en terrain plat et jouit d'un vaste espace pour se répandre, ne s'élève pas dans les airs, mais que, si la main des ouvriers l'oblige en la resserrant d'en bas à passer dans un étroit tuyau, elle jaillit vers le ciel, plus rapide qu'une flèche. De même, l'esprit humain, lorsqu'il jouit d'une pleine tranquillité, se relâche et se disperse. Tandis que si la pression des circonstances le met à l'étroit, et si la pression des circonstances est encore une fois la conscience du péché, de notre pauvreté intérieure, si la pression des circonstances le met à l'étroit, à son niveau inférieur, alors, convenablement comprimé, il envoie vers le ciel des prières pures et vigoureuses. Voilà l'image qui sous-tend chez Saint Jean Chrysostome cette formule: à des profondeurs j'ai crié vers toi. Ces profondeurs, c'est les profondeurs du cœur resserrées par la conscience du péché, d'où la prière va pouvoir jaillir spontanément. Donc ce texte de Saint Jean Chrysostome me paraît d'une très grande importance, et encore une fois, je crois qu'on peut dire qu'il résume toute la philokalie, au moins tout ce qui dans la philokalie correspond à ce qui est au pouvoir normal de l'homme assisté par la grâce. Cela ne décrit pas bien sûr les états supérieurs que les grands spirituels peuvent connaître, mais c'est la méthode authentique pour parvenir à cela, pour parvenir à cette vision de Dieu dans le Saint-Esprit dont parlait tout à l'heure Père Siméon. Et c'est pour cela que cette parabole du pharisien et du publicain, comme celle de l'enfant prodigue, sont parmi les paraboles, je dirais, les plus riches pour la vie spirituelle. Ce sont des paraboles qui, à elles seules, résument au fond tout l'itinéraire et toute la méthode de la vie spirituelle. Et l'une comme l'autre, nous avions déjà commenté l'enfant prodigue, mais nous avions vu comme l'an, elle exprime toute la démarche spirituelle du chrétien. Et avec ces deux pôles, n'est-ce pas, de la conscience de notre péché et de cette confiance totale en Dieu. Alors l'enfant prodigue avait cette particularité de souligner d'une façon extrêmement touchante ce caractère de Dieu, n'est-ce pas, de Père miséricordieux, qui fonde cet autre pôle de la prière qui est la confiance. Mais les deux paraboles précédentes insistaient sur un autre aspect de la doctrine de la prière, non moins important, qui est la persévérance. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer aujourd'hui, persévérance dans la prière et s'exprimant par une certaine continuité, j'aurais même une certaine quantité dans la prière. Encore une fois, ce n'est pas la quantité comme telle qui compte. Et le Seigneur dira bien, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas faire comme les païens qui multiplient les mots dans la prière, comme si les mots et leur multiplicité avaient une valeur en elles-mêmes. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront exaucés, mais d'autre part, du fait que nous sommes des êtres corporels, des êtres par conséquent engagés dans la matière et dans le temps, eh bien la durée devient très souvent un signe de la qualité. Et c'est pour cela que, d'une part, comme je vous le disais, l'épreuve est toujours marquée par un signe de durée. Il n'y a de véritable épreuve que si elle dure. Une épreuve n'est pas quelque chose d'instantané. Une épreuve suppose une continuité et... justement, l'épreuve a pour but de faire ressortir notre persévérance, notre continuité, et donc la solidité, l'enracinement profond dans tout notre être du sentiment qui est ainsi mis à l'épreuve, encore une fois. Et c'est dans ce sens que la continuité, la persévérance, je dirais même la longueur de nos prières, des temps que l'on consacre à la prière, sont très importants. Parce qu'à ce moment-là, il montre justement que dans la prière, ce que nous cherchons, ce n'est pas notre satisfaction à nous, ce n'est pas de produire en nous un état d'âme agréable, euphorique, mais c'est justement à travers la souffrance, à travers la difficulté, à travers une absence apparente de Dieu, eh bien de durer dans la foi. Cette attitude profonde de foi, n'est-ce pas, se manifeste essentiellement au sein de la durée, au sein du temps, au sein de la persévérance. Et comme le dira alors le Seigneur à propos des derniers temps, ce sont ceux qui ont persévéré jusqu'au bout qui seront sauvés, mais cela vaut pour toute la vie spirituelle. Et donc ce saut de la durée, du temps et de la persévérance dans la prière au sein de l'épreuve, au sein de la difficulté, est tout à fait fondamentale. Donc je crois que on peut dire que nous retrouvons là les deux données fondamentales de la philokalie. D'une part, la continuité dans la prière, une prière qui doit devenir le tissu même de la vie, qui doit être ce qui exprime notre foi tout au long de notre vie, cette remise totale de nous-mêmes à Dieu, et avec cet aspect de persévérance, de continuité, de courage, d'endurance dans la prière. Et puis, d'autre part, cet aspect de repentir, qui encore une fois, est le moteur profond de la prière chrétienne. Et pour terminer, je vous lis un petit résumé que j'avais eu l'occasion de rédiger il y a quelque temps et qui regroupe tout ceci. Les paroles du Seigneur sur la prière sont d'une force, d'un absolu, qui devrait nous bouleverser. Et je citais ici les paroles que j'ai mentionnées tout à l'heure. « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Oui, la puissance de la prière est prodigieuse, ce sont des mots mêmes de saint Séraphin de Sarov, que j'ai eu l'occasion de citer ici même en parlant de saint Séraphin. « Oui, la puissance de la prière est prodigieuse, car plus forte que tout ce qui existe, c'est elle qui fait descendre l'Esprit Saint. » Puissance d'épiclèse de toute prière. Pourquoi notre prière est-elle si faible, si languissante, apparemment si inefficace? Le Christ encore nous donne la réponse. À cause de votre peu de foi. Car, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, va-t'en d'ici, elle irait, et rien ne vous serait impossible. Une prière vraie, une prière faite avec foi, ce ne peut être une formule récitée distraitement du bout des lèvres, animée seulement par une conviction fragile ou un émoi passager de notre sensibilité. La vraie prière jaillit du cœur, du fond de notre être, réunifié par la conscience aiguë de notre détresse, de notre impuissance, de notre radicale pauvreté devant Dieu. Et animé aussi par une confiance ardente, totale, en l'amour du Seigneur pour nous, en sa toute-puissance miséricordieuse. Quand Pierre se voyait enfoncé dans la mer et s'écriait « Seigneur, sauve-moi », il n'était pas distrait, il ne pensait pas à autre chose. Que sa prière soit le modèle de la nôtre. Oui, que cet appel que nous adressons, « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur », eh bien, jaillit dans cette conscience que nous enfonçons dans cet abîme du péché, cet abîme de notre médiocrité, de notre péché. Et à ce moment-là, eh bien, oui, toute notre prière peut être véritablement réunifiée et peut échapper à la distraction par la même. N'ayons pas peur de la quantité dans la prière. Ne craignons pas de beaucoup prier et de le faire longuement. Non pas pour multiplier les mots à la manière des païens, mais pour exprimer en toute vérité l'intensité, l'insistance, la persévérance de notre désir. Imitons la pauvre veuve et l'ami importun. Comme l'a dit un grand spirituel, il n'est pas possible de transiger où nous sommes des hommes envahis totalement par la prière et nous obtenons tout, où nous faisons une bonne place à la prière en nous réservant une petite part personnelle et alors nous ne pouvons rien comprendre à l'esprit de l'Évangile. J'en resterai là aujourd'hui puisque nous ne devons pas trop prolonger, mais il nous reste un moment pour des questions ou un échange sur ce sujet.
Merci au Père. Est-ce que, je vous avais déjà parlé des psaumes, mais est-ce que les psaumes en totalité sont des prières qui peuvent être dites par tout le monde?
Je ne sais pas si vous avez entendu la question, on me demande si les psaumes sont des prières qui, dans leur totalité, peuvent être dites par tout le monde. En soi, oui. En droit, oui. Parce que ce sont des prières inspirées par l'Esprit Saint, et par conséquent, tout dans les psaumes garde une valeur actuelle. Et je crois qu'il serait tout à fait illégitime de dire que les psaumes sont des prières d'Ancien Testament qui expriment une mentalité d'avant l'Évangile et qu'il n'y a qu'une partie des psaumes, une partie des versets qui peuvent convenir à la prière d'un chrétien, à la prière de quelqu'un qui n'en est plus à la morale de l'Ancien Testament, morale de vengeance, morale de rétribution temporelle, mais qu'il n'y a que les versets qui expriment les sentiments les plus généraux de confiance, de repentir devant Dieu ou de louange qui puissent nous convenir. De ce point de vue-là, la tradition chrétienne nous donne des principes d'interprétation des psaumes qui font que tous les versets des psaumes peuvent prendre un sens sur des lèvres chrétiennes. Le Christ a prié tous les psaumes, il n'a pas fait un choix, il n'a pas fait, très certainement, le Christ n'a pas censuré les psaumes, n'est-ce pas ? Et je crois que ce serait une aberration de le faire. Mais, comme je vous disais à l'instant, n'est-ce pas, c'est la tradition chrétienne qui nous a montré comment christianiser les psaumes, comment les dire. Cela n'est pas évident au premier abord. Par exemple, un verset comme celui-ci, n'est-ce pas, « Bienheureux qui saisira tes petits-enfants et les brisera contre le roc », bon, si vous le prenez tel qu'il est, bah, c'est abominable pour un chrétien. Ça prend un sens extrêmement riche quand on voit que toute la tradition chrétienne l'a justement réinterprété en fonction de ce fait que les ennemis temporels d'Israël étaient le type de toutes les puissances qui s'opposent au royaume de Dieu, qu'il s'agisse de l'Église, qu'il s'agisse de l'âme chrétienne, et que par conséquent, ces petites Babylones, ce ne sont pas des petits-enfants, n'est-ce pas, de chair et d'os, mais ce sont tous les rejetons du mal, ce sont toutes les suggestions mauvaises et tout ce qui, dans notre vie spirituelle, même la plus personnelle, la plus intime, s'oppose au royaume de Dieu. Et à ce moment-là, ce verset devient au contraire une arme puissante que l'Esprit-Saint met entre nos mains pour lutter contre Satan. Mais ceci suppose une certaine culture chrétienne. Et de ce point de vue, il y a des psaumes qui sont plus faciles, d'autres qui sont plus difficiles. Un psaume comme justement « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur », bon, n'offre pas de grandes difficultés à l'interprétation chrétienne. Ce psaume-là, par contre, avec ses enfants de Babylone, est plus difficile, donc suppose davantage de culture chrétienne. Et c'est pourquoi l'Église, très sagement, dans les offices paroissiaux, a plutôt utilisé en général des choix de psaumes, des versets choisis, plus accessibles, ne demandant pas toute une catéchèse pour être compris, et la lecture suivie du psautier, totale, intégrale, qui a toujours fait partie aussi de la nation de l'Église, a été davantage le fait des moines, le fait des chrétiens cultivés, qui ont pu avoir cette culture leur permettant de les transposer. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il peut être bon, parfois, de se faire un choix de psaumes pour voir ceux qui nous parlent davantage, ceux qui sont plus accessibles, ceux qui vont exprimer mieux notre prière personnelle, compte tenu de nos besoins, compte tenu de notre culture chrétienne, mais ceci reste des cas personnels, mais en soi, je dirais que tous les versets des psaumes sont susceptibles d'être une prière chrétienne. Oui.
C'est pas tout à fait ça que je voulais dire.
Oui.
C'est-à-dire, par exemple, le psaume 118 dit sans cesse « J'ai fait ceci, je me suis donné ce mal, etc. » et tu ne m'exauces pas.
Oui.
Il dénombre un certain nombre de choses qu'il a faites.
Oui.
Il les met devant Dieu, espèce de témoignage. Mmh. Mais je voulais dire, si soit on n'a pas fait ces choses-là, comment faut-il le lire ?
Eh bien, toujours, parce que bon, nous pouvons ne pas avoir commis tel péché ou telle faute, n'est-ce pas, énuméré par le psalmiste. Mais à ce moment-là, c'est une expression, je dirais, symbolique d'un état de péché.
Mais quand c'est mal, d'accord, mais quand oui. C'est bien.
Alors, quand c'est bien, eh bien, justement, alors, oui, mais alors là aussi, vous avez des psaumes d'innocence, des psaumes qui sont des protestations d'innocence. Et là encore, c'est la tradition chrétienne qui nous enseigne comment les comprendre, parce que tout psaume peut être mis aussi sur les lèvres du Christ, et il ne s'agit plus de notre innocence personnelle, mais de l'innocence du Christ qui nous couvre. Ce sont des paroles de l'Église, et de l'Église lavée de toute ride par le Christ. Voyez-vous ? Et à ce moment-là, c'est la voix du Christ, c'est la voix de l'Église épouse, et nous les disons en tant que déjà, nous bénéficions de cette innocence du Christ et de l'Église.
À ce moment-là, on ne les lit plus comme des supplications, mais comme des actions de grâce. Alors.
Ou comme des supplications, mais justement, tout est mêlé, l'action de grâce, supplication sont très mêlées dans les psaumes. On passe inlassablement de l'un à l'autre, n'est-ce pas, et sans beaucoup de logique humaine, parce que justement, nous sommes encore pécheurs, nous sommes déjà sauvés, nous sommes encore pécheurs, nous sommes déjà innocents, parce que revêtus de la justice du Christ, n'est-ce pas, et les psaumes aussi sans cesse, d'une autre de ses attitudes. Mais justement, parce que ce qui caractérise notre condition terrestre, c'est que déjà, le mystère du salut est radicalement réalisé en nous, déjà nous sommes sauvés, déjà nous sommes hantés sur le Christ, déjà nous sommes avec lui assis dans les cieux, donc déjà nous avons cette innocence du Christ, c'est-à-dire qui nous revêt. Et puis en même temps, nous ne sommes pas encore sauvés entièrement, nous sommes dans une situation d'entre-deux qui fait que toujours nous pouvons à la fois nous prévaloir de la justice du Christ et reconnaître le péché, Toujours nous pouvons rendre grâce pour le salut qui nous a été accordé et en même temps demander le salut. Voyez-vous, il y a toujours cette oscillation entre les différents pôles de notre vie chrétienne. Mais c'est justement là des